Alors peut-être on va faire une pause musicale pour évoquer la musique qu'il aime et qu'il passe sur ton tourne-disque dans sa chambre. C'est une chanson de Fréhel, la chanson des fortifications, qui est extrêmement mélancolique et nostalgique.
Et nostalgique,
fait pleurer, les fortifications de Paris.
Voilà.
Les rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruand, les héros populaires, des refrains d'avant-guerre, bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit, et l'on se demande aujourd'hui que sont devenus les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julo, Nelly, Casque d'or et petit Louis le costaud, si célèbre alors? Que sont devenus les fortifications et tous les héros des chansons? Des maisons de 6 étages, ascenseurs et chauffage, ont couvert les anciens talus. Le petit Louis réaliste est devenu garagiste et Bruand a maintenant sa rue. Julo sera de l'Institut bientôt et Nini possède un château. Il n'y a plus de fortifications ni de petits bistrots de barrières. Adieu décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Mais d'autres reviendront, héros différents, puis disparaîtront. Chacun son temps, il n'y a plus de fortifications, mais il y aura toujours des chansons. De fortification, mais il y aura toujours des chansons.
Il n'y a plus de fortification.
Je voulais dire une chose sur cette scène. Donc à la fin, Léo siffle, c'est très beau à voir, mais bon, il se met en avant, c'est un petit peu narcissique. Et après, juste après, Véronica chante merveilleusement une chanson, c'est très très sincère, c'est tout simplement comme une rose, enfin une vieille chanson.
Oui.
Elle dit, moi aussi je connais des vieilles chansons. Et alors c'est magnifique, c'est absolument merveilleux, de sincérité,
oui,
d'émotion.
A cappella.
Et c'est complètement zappé par Léo, qui dit même pas, elle fait un truc généreux, beau, émouvant... Et d'ailleurs, elle lui dit à la fin, alors il la regarde fixement, elle lui dit vous me gênez. Et très vite, il dit même pas c'est bien, c'est beau, il la zappe et il met la radio, il dit ah ben c'est maintenant l'heure du chroniqueur du petit matin. Et ça montre aussi le caractère du personnage qui est très très narcissique, très égoïste. Il dit même pas, il porte même pas un jugement de valeur ce qu'elle vient de chanter. Et il enchaîne par c'est le chroniqueur du petit matin qui va parler, voilà. Et là, il y a un moment plutôt rigolo où à nouveau il va se mettre en avant, faire le beau, enfin voilà. Donc
oui, mais donc peut-être que
une scène très très étrange. Oui.
Peut-être que le fait que ils ne disent rien, oui, c'est peut-être lié
aussi
à une véritable émotion,
oui,
et que comme il refuse de manifester cette émotion,
d'être fragilisé,
il refuse d'avouer une vulnérabilité.
Vulnérabilité, c'est mieux.
C'est la première fois qu'il découvre que Véronica est autre chose intérieurement, intimement, que ce qu'elle affiche.
Bien sûr.
Bon, femme libérée, qui couche de tous côtés, à qui tout est égal.
Qu'elle dit.
Oui, après. C'est ce qu'elle dit. Et là, tout d'un coup, il vient de découvrir une fragilité, une délicatesse dont il ne sait que faire parce que ça l'obligerait à quelque chose.
La chanson dit des choses très belles, tout simplement comme une rose que vous avez cueilli mon cœur morose. Mm-hmm. Voilà, elle dit à un moment donné, en passant devant ma maison.
Ça fait penser à du François Hardy.
Ouais. Mm-hmm. Elle dit quelque chose de sincère. Elle dit quelque chose de sincère et oui, c'est vrai, peut-être qu'il est ému, vous avez raison.
On n'en sait rien.
C'est un très beau moment du film.
Il ne s'agit pas ici d'avoir raison, il s'agit d'interpréter.
D'avoir ses raisons.
Sûr.
Voilà. Oui, juste, je voulais ajouter quelque chose, et là, ça va venir un peu du coq à l'âne, mais le caractère de dandy de Léo, c'est cette affectation de détachement. C'est une forme de cynisme, en tout cas, une indifférence.
Il n'a pas que dans ce film d'ailleurs, qu'il a chez Truffaut quand même parfois.
J'avais pensé
chez Godard aussi.
Ouais.
À chercher chez Baudelaire, alors puisque j'avais.
Ah oui, chez Baudelaire, mais le dandisme.
Roland Barthes, le dandisme, oui. Alors, et la définition que Baudelaire donne des dandys, dont je crois le peintre de la vie moderne, lui correspond assez. Homme déclassé, dégoûté, désœuvré, douleur et impassibilité, maintien stoïcien d'une hauteur distante comme discipline. Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l'air froid qui vient de l'inébranlable résolution de ne pas être ému. Donc pour faire écho, si tu veux, à ce que tu dis, c'est-à-dire l'absence de réponse à ce don que lui fait Véronica d'une chanson du fond du cœur et une chanson fleur bleue peut-être. Donc lui se protège avec le brechtisme à distance s'il vous plaît.
Restons théoriques.
Voilà, alors je crois que dans ce film aussi personne n'est figé, il n'y a pas de dandy, il n'y a pas de maman et c'est dit quand même aussi à la fin, il n'y a pas de putain finalement. Voilà, c'est très clair, donc personne n'est complètement figé.
Donc en fait on aurait pu s'appeler Ni la maman, ni la putain.
Mais quelque part, non. Parce que
ce serait mieux.
Les personnages sont des archétypes, la maman et la putain, mais clairement, à un moment donné, les choses bougent.
On est loin de ça, de toute façon, quand même. C'est-à-dire que Bernadette Lafont, elle est loin d'être la maman, même si elle l'accueille dans son truc, et qu'à chaque fois qu'il revient, même s'il a découché, elle le reprend, elle le rembrasse. Goulûment, affectueusement, ça c'est quand même assez incroyable aussi. Hein. C'est ça, c'est aussi un peu le signe de ce post-68 et de libération peut-être aussi.
Et elle lui fait du lapin à la moutarde. J'ai eu l'impression que c'était comme a private joke, puisque au début, il reproche à Véronica, enfin, Véronica lui pose un lapin.
Un lapin, ah oui, voilà.
Mais
ah oui,
Marie bon. Oui, lui revient. Fait oui, du oui. lapin à la moutarde.
Ça c'est pas par hasard.
Mais ils ne le mangeront pas. Je pense que
Stache s'amuse avec ça, évidemment.
Je sais pas si vous avez vu, alors vraiment, là, je passe encore du coq à l'âne. Dans le générique de fin, dans les merci les hommages, il dit merci à Jack Daniels. Et Jack Daniels, la marque, évidemment, de whisky.
Je crois que c'était quelqu'un, moi, Jack Daniels.
Je crois que
c'était un dandy américain,
oui,
Jack Daniels.
Américain.
Non, pas du tout.
Non.
Ah, bon, d'accord.
Mais
c'est une bonne marque de whisky.
Ça aide au dandysme, oui. En tout cas, Alexandre Dandy, oui, puisque il voudrait faire de sa vie une œuvre d'art.
Hein, oui,
c'est
comme
la
tous
définition
les dandys.
Du dandy. Oui. Il voudrait être sa propre création et pour cela maîtriser et contrôler tout.
Tout le monde n'est pas Baudelaire après. Mais...
Et puis, alors là encore du coq à l'âne, mais à propos du titre, puisque vous dites il faudrait que ça soit ni la maman ni la putain, j'ai lu dans une interview de Françoise Lebrun que le titre initial c'était Du pain et des roses.
Ah, je ne savais pas.
Non plus, mais
c'est assez joli d'ailleurs.
J'ai tombé là-dessus hier soir.
C'est assez décalé, c'est joli. C'est bien.
Ce mot d'ordre de la grève de 1912 dans le Massachusetts aux États-Unis. Fait courir dans le film cette espèce de fil rouge là de l'ancrage social, de la parole de protestation du déclassé qui n'est pas du côté des vainqueurs.
Et puis, évidemment, il y a ce fameux monologue final, alors où il me semble... oui, pourquoi pas, on pourrait parler de Véronica 2, parce que finalement, elle révèle qu'elle a envie d'une sorte de normalité, finalement, qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de faire l'amour pour avoir un enfant. Et finalement, cette femme qui a eu énormément d'aventures et qui s'en vante aussi, qui le dit à un moment donné, eh bien, révèle que la seule chose qui est belle dans la vie, c'est de faire l'amour pour avoir un enfant. Donc c'est assez étrange, ce revirement du personnage. En tout cas, la scène... a énormément marqué les esprits, bien sûr.
Mais une convention, d'intégration.
Une convention, complètement une convention. Elle dit que finalement, il y a le retour à une certaine normalité du personnage. Et tu peux faire l'amour avec n'importe qui, tu n'es pas une pute, voilà. Pourquoi vous accordez autant d'importance aux histoires de cul, etc. Donc comprenez tous les deux, pour une fois pour toutes, que les histoires de cul n'ont absolument aucune importance. Elle dit ça, et Simon, ce monologue est énormément impressionné par sa durée, parce qu'il est filmé quasiment en plan fixe, sans aucune coupe. Il dure 8 minutes. Et puis surtout, alors là je donne des révélations du tournage.
Ouh là là.
Il paraîtrait donc qu'il y a eu, ce qui s'est impressionné, les techniciens, les acteurs présents sous le tournage, il y a eu effectivement une seule prise, et ça a été la bonne. Et à la fin de la séquence, tout le monde était, paraît-il, évidemment très subjugué par...
Pour une actrice non professionnelle, quand même.
Par la performance de François Lebrun.
Rappelons-le encore, actrice non professionnelle.
Qui après, effectivement, après le film, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a fait quelques films avec Paul Vecchiali. Et puis récemment, elle est revenue aussi, il y a 2 ans, avec un film formidable, Gaspard Noé, qui s'appelle Vortex.
Ah oui, c'est ça.
Voilà, film formidable. Très émouvant. Mais enfin, voilà, c'est une actrice qui a eu une carrière assez peu connu, hein, contrairement à Bernadette Lafont, par exemple. Mais ce moment était évidemment un moment très impressionnant, qui est complètement, complètement saisissant, quoi.
Oui, mais en même temps, là aussi, si on suit Jean Eustache disant qu'il lui a donné ses accents de sincérité pour qu'elle puisse tromper et le spectateur
et
Alexandre, c'est troublant aussi. Oui, puisqu'elle est dans un conformisme total et dans une sorte de sentimentalisme. Elle dit « Je crois qu'un jour un homme viendra et m'aimera et me fera un enfant parce qu'il m'aimera. Et l'amour n'est valable que si on a envie de faire un enfant ensemble. » Bon.
Comme tu l'as dit à la fin, elle lui arrache la promesse de mariage, puisqu'à la fin, il la demande en mariage, et puis il y a une ultime...
Parce qu'elle lui révèle qu'elle est enceinte.
Elle lui révèle qu'elle est enceinte.
Oui, alors, voulez-vous m'épouser? Et elle répond oui. Et immédiatement après, je suis malade, j'ai envie de dégueuler, je vais dégueuler.
Donc juste avant, ça finit, c'est le happy end, en fait.
Et, sur le vomi, dit Alexandre.
Donc on dit aussi que... Enfin, je ne sais plus qui dit ça, elle vomit le film, en fait.
Elle vomit le discours
vomit
aussi.
Tout ce discours.
De simulacre et de théâtralité.
Alors,
qui n'ont fait que de la souffrance.
Beaucoup pensent que le film aurait dû s'arrêter après le monologue de Véronica.
Surtout toi.
J'avoue que oui, mais bon, après, voilà.
Oui, c'est autre chose. Non, mais c'est bien
chose.
C'est bien qu'il y ait cette espèce de ce gros contrepoint, en fait, à tout ce qui est précédent. Il y a le film très sobre qui finit un peu trashy, pour dire ça un peu de façon exagérée, mais voilà.
Et peut-être, alors, on va finir par la chanson Les Amants de Paris. C'est la chanson que Marie met sur son tourne-disque une fois qu'elle a renoncé à Alexandre, une fois qu'elle les a laissés partir ensemble, Véronica et Alexandre, et la scène finale sera celle que l'on a dite.
Je trouve que c'est un moment très dur aussi, c'est un moment où on comprend qu'elle
Alors,
est toute seule.
C'est le seul moment où on entend intégralement une chanson. Marie est allongée sur le lit, immobile, dans une solitude profonde,
c'est très, très dur,
et à la fin, elle met son visage dans ses mains sur la fin de la chanson.
Oui, c'est ça.
C'est un moment très difficile.
Tu veux arrêter là, après?
Une chanson de Léo Ferré.
J'ai un truc à dire juste avant.
Alors, écoute,
on passe la chanson, je dis après.
Ton texte. Alors, Edith Piaf, Les Amants de Paris, donc les paroles sont de Léo Ferré.
Les Amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les
refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Sa fête est à printemps et le printemps fait l'amour. Mon blé s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson, il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris les amants de drôles de passion. Mais la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier.
Fait le tour de la maman et de la putain de Jean Eustache. Il y avait un projet, en fait, que Sach a écrit en 1978, qui s'appelle « Toutes ces années d'amour » et qui se trouve dans le coffret DVD avec l'intégralité de l'œuvre d'Eustache. C'est un projet, donc « Toutes ces années d'amour » d'après le roman de Evan Anska, « Les Raoul ». Donc, il avait déjà écrit trois séquences, en fait, séquence 1, séquence 2, séquence 2B, avec des personnages qui s'appellent Charles, Lola et Ariane, dans, effectivement, cette... comme une suite qu'il n'a jamais réussi à faire à la maman et la putain.
Donc, oui, alors peut-être on peut finir juste là-dessus. Alors ce serait comme une à la recherche du temps perdu, paraît-il, pendant le tournage, Eustache lisait Proust, ah oui. Et on voit que Léo lit aussi à un moment donné à la recherche du temps perdu. Donc le souvenir, on est parti presque de là et oui. Bon, on y revient.
Oui, oui. Cinématographe 5, point d'exclamation, c'est fini. La maman et les putains, c'est fini. Le prochain cinématographe sera consacré vraisemblablement sous la direction d'Olivier Lolmed à Louis Malle en parlant de mes films préférés, Zazie dans le métro, adaptation de Queneau. Olivier ?
Je suis bien d'accord avec toi. J'ai hâte de ce prochain rendez-vous. J'adore ce film et j'adore Louis Malle globalement, qui est un cinéaste très sous-estimé, qui a fait une série de très grands films comme Le Feu Follet notamment, ou ouais. La Petite.
Et le Voleur, voilà. Enfin, il y a plein de choses.
Ouais, je pense.
La Petite, attention. Voilà. Mais, la Maman et la Putain, je ne sais pas comment... La Maman et la Putain, pardon. Zazie dans le métro, c'est tellement musical qu'on n'aura même pas besoin, on pourra prendre des extraits un peu comme ça. Voilà. À bientôt, cher et public.
Merci à tous les deux.
Chers auditeurs. Merci à Boris surtout. Salut. Thank you.